votre esprit ou de vous reconcentrer sur des choses, j'allais dire plus spirituelles, mais non, ce qui se passe dans l'Église est également spirituel pour en fait pouvoir aborder ce temps de prédication. Prions ensemble. C'est vrai, Père, je te remercie parce que beaucoup de choses se font dans cette Église déjà, par toutes les réunions que nous pouvons voir, auxquelles nous pouvons assister. Je voudrais te demander, Père, maintenant d'ouvrir notre esprit particulièrement à ta parole. Père, tu sais, de manière miraculeuse parfois, amener des choses aux gens alors que le thème n'est même pas abordé. Que tu puisses, pour chacun de nous aider à comprendre ce que nous devons comprendre pour pouvoir avancer, nous approcher de toi. C'est une grâce que je te demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas pour vous, mais parfois, il m'arrive de lire un texte après l'avoir lu déjà un certain nombre de fois. Et puis, on l'a lu précédemment sans avoir réagi particulièrement. Voilà, c'est un texte parmi d'autres. On les connaît, on les lit, on les passe. Et puis, un jour, on prend ce même texte, on le lit et clac, il nous frappe. On se dit, c'est incroyable ce que je viens de dire, de lire là. Il se passe quelque chose, on comprend quelque chose d'important par rapport à ce texte qui pourtant est connu. Eh bien, c'est un texte comme cela que je vais partager avec vous ce matin. C'est un passage de la lettre aux Éphésiens qui est à la base de ma prédication. Alors, c'est un texte que j'ai, une fois encore, lu plusieurs fois. Et puis, il y a quelques semaines de cela, au cours d'une étude biblique, je l'ai repris et il m'a frappé. Et je me suis dit, il va falloir que je revoie avec vous, que je partage ce texte avec vous, qu'on puisse un petit peu avancer dans sa compréhension et de ce qu'il peut nous dire, ce qu'il peut nous apprendre. Alors, ce texte aborde le thème de l'Église. Alors, l'Église est un thème classique. On en entend parler régulièrement, c'est vrai qu'on vit en Église, c'est quelque chose d'important, et assez régulièrement, c'est vrai qu'il y a des prédications sur l'Église, sur ce thème de l'Église. Là, le thème que je vais aborder par rapport à l'Église est un petit peu plus confidentiel. Non pas que ce soit secret, non pas qu'on n'en parle jamais, mais c'est vrai qu'on le partage un petit peu moins. Et il m'a semblé intéressant, dans ses implications, de le partager avec vous ce matin. Mais avant de le prendre en tant que tel, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à entendre de vous, de votre part, ce qu'est pour vous l'Église. On peut prendre un temps de partage à ce sujet, il y aurait beaucoup, beaucoup à en dire, alors on ne va pas prendre une heure, mais vraiment, enfin, exprimons-nous les uns les autres sur, pour vous, qu'est-ce que l'Église ? C'est un repère ? Alors dans quel sens ? Un repère, une marque ou un repère où on peut se réfugier ? Merci Nadia. Un repère. C'est le lieu de rassemblement des chrétiens. Ce sont les chrétiens. Communauté. Communauté de chrétiens qui partagent la même foi. C'est le corps du Christ, absolument. Et j'ai entendu quelque chose par là-bas. C'est l'épouse de Jésus, absolument. Il y a des gens qui lèvent les doigts et qui après n'osent pas... Ah, c'est en haut. Ah, c'était en haut, pardon, excusez-moi. Merci, Charline. C'est en haut que quelqu'un a dit quelque chose. Ok. Qu'est-ce que l'Église pour vous ? C'est un lieu sacré. Absolument, il y a donc des églises locales et une église universelle, c'est ça ? Merci, absolument. Si, absolument, ça a déjà été partagé, tout à fait, oui. C'est la maison de Dieu et c'est nous également, voilà. Absolument. Absolument, merci. D'autres choses encore ? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est l'amour. L'Église, c'est l'amour. Merci.
C'est là où commence le royaume de Dieu.
Ah, la famille en Christ. Il y a beaucoup de choses, hein ? Oui ? C'est le lieu saint. C'est le corps du Christ. Tout à fait, ça a déjà été dit. Un édifice spirituel, la bergerie. Et ça commence à fuser. D'autres choses ? Donc un lieu de communion entre Dieu et les hommes, et les hommes entre eux, absolument.
Un rassemblement de personnes qui, a priori, n'ont pratiquement rien en commun, et qui partagent une seule chose qui les unit.
Ouais, ça c'est important, ça tout le monde a entendu. Un lieu où en fait des personnes très disparates, très différentes, qui n'ont rien au commun, autre que la foi, et en fait la foi qui nous unit tous. Merci. D'autres choses ? C'est tout pour nous, l'Église.
L'Église, c'est un lieu de prière. Tout ensemble, prier ensemble, ça donne, enfin, fortifier la foi. Ça donne beaucoup de foi. C'est vraiment. Quand je prie chez moi, c'est pas pareil quand je prie.
Merci de votre témoignage. L'Église est un lieu de prière où on prie tous ensemble et il se passe quelque chose de particulier, de plus, j'ai envie de dire, pour vous, que quand, lorsque vous priez seul chez vous. Merci. Ok, on aurait encore, je pense, des thèmes et des thèmes à aborder. Il y a tout un tas de pans qu'on n'a pas abordé. C'est qu'est-ce qu'on y fait dans l'Église, quelles sont les activités, etc., etc., etc. C'est effectivement quelque chose de très, très important. Je rajouterais juste une chose qui n'est d'ailleurs pas en lien avec ma prédication, ou presque pas. Je dirais aussi que l'Église est au service. Elle est au service de Dieu, en le louant, en l'adorant. Elle est également au service des chrétiens, de nous-mêmes qui la constituons. Elle nous permet en fait de nous sanctifier. Elle nous permet de grandir, que ce soit par les enseignements, par les services qu'elle nous permet de mettre en œuvre, et tout un tas de dimensions comme ça. L'Église nous permet de grandir en Christ. Et puis, troisièmement, l'Église est au service du monde. Elle se penche vers ses blessures. Par les actions humanitaires, si on prend un peu l'histoire de l'Occident, en l'occurrence, quasiment tous les hôpitaux, quasiment toutes les œuvres charitables, initialement, viennent du milieu chrétien. C'était vrai, évidemment, au Moyen-Âge, où l'Église, en plus, avait un peu toutes les ressources pour le faire, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Beaucoup d'œuvres qui deviennent plus ou moins laïques ont des racines dans l'Église. L'Église se penche sur la misère du monde. Voilà. L'Église sert Dieu, elle sert les chrétiens, et elle sert le monde. Mais lisons ensemble ce passage en fait, dont je vous ai parlé précédemment. Il se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Ça se trouve au chapitre 3 de la lettre de Paul aux Éphésiens et au chapitre 10. Et je prendrai avec vous la traduction du Semeur. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent reconnaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Entre parenthèses, de la sagesse de Dieu, bien évidemment. Dans ce verset, Paul déclare que l'Église montre la sagesse de Dieu. Ça, on le savait déjà, vous allez me dire. Mais dans ce texte, Paul nous explique que l'Église montre la sagesse de Dieu pour les autorités et les puissances célestes. L'Église est un signe. Bien évidemment, Paul, dans cette lettre, parle de l'Église universelle. Il y a effectivement ces deux dimensions de l'Église. L'Église dans son ensemble, l'Église dans le monde. Comme nous l'avons partagé, c'est vrai que l'Église universelle est donc l'ensemble des croyants, l'ensemble des chrétiens sur terre. Eh bien, nous tous, donc, l'Église universelle est un signe de la sagesse de Dieu pour les êtres célestes. Alors, ne me demandez pas précisément ce que sont ou qui sont ces autorités et ces puissances célestes. La Bible est assez peu explicite sur le sujet. Globalement, ce dont on est certain, c'est qu'il y a donc des anges qui existent. Certains sont restés fidèles à Dieu et d'autres, une minorité, s'est révoltée contre Dieu. Eh bien, toutes ces créatures, parce que ce sont également des créatures de Dieu, évidemment, comme nous, pour elles, nous sommes un signe des aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Qui l'eût cru ? Nous. Comment l'Église ? Comment ce que nous sommes peut-il être un enseignement pour toutes ces créatures qui ont connu Dieu, on en veut dire, bien mieux que nous ? Elles ont été en contact direct avec Dieu. Comment donc nous, qui sommes coupés de Dieu, peut-on être un signe, un enseignement pour ces personnes, pour ces êtres ? Alors, allons un peu plus loin dans l'étude de ce thème. En fait, ce verset 10 du troisième chapitre commence par « par cette mise en lumière ». Ce qui signifie qu'en fait, ce texte a un contexte, et il vient pas juste comme ça, c'est pas le début d'une idée, mais c'est la continuité d'une idée. Alors, on va prendre ce contexte pour nous aider à avancer un petit peu, à mieux comprendre. De quelle mise en lumière Paul parle-t-il ? Alors, pour avoir le contexte complet, il faudrait commencer par Éphésiens, chapitre 2, verset 11, ce qui est un petit peu long. On va se limiter juste en commençant par Éphésiens, verset 6. Et puis, on va aller un tout petit peu plus loin que le verset 10, pour dépasser un petit peu ce verset. Ah, alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez soit votre Bible, soit votre smartphone. Ou alors, soyez attentifs à la lecture. Je vais encore prendre donc la traduction du Semeur, Éphésiens chapitre 3, les versets 6 à 12. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de l'évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Quel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière, pour tout homme, la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu. Ainsi donc, c'est l'intégration des païens au salut initialement réservé aux juifs qui est le signe de la sagesse de Dieu. C'est donc la possibilité que nous avons, nous, d'être sauvés, qui montre les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Parce que, a priori, de cela, personne ne s'y attendait. Ni les juifs, ni les puissances célestes. C'est de ça dont il faut bien avoir conscience. Quand comme Paul l'a écrit au verset 3 du chapitre 3, on ne l'a pas lu, mais c'était encore avant, c'est par révélation que Paul a eu conscience de ce plan et de cela, de cette intégration au salut des Juifs par les païens. Cela n'apparaît pas dans la Torah. Les Juifs ne pouvaient pas le savoir ni l'imaginer. Alors, ça nous paraît normal à nous aujourd'hui qui avons vécu après 2000 ans d'histoire de l'Église. Ça nous paraît normal que nous soyons, nous, en tant que païens, en tant que peuple divers et varié de la terre, intégrés à ce salut. Ça nous semble naturel. Mais ça ne l'est pas. Pour les juifs de l'époque de Paul, ça ne l'était pas. Parce que comme Paul l'écrit au verset 9, ce projet a été tenu caché en lui-même par Dieu de toute éternité. Alors maintenant, nous pouvons être fiers en disant « Oui, il y a des textes dans la Torah qui expliquaient bien que les païens allaient être intégrés, patati patata. » Oui, maintenant, nous, on le sait, donc on peut se dire « Ça y était. » Sauf que, en fait, c'était un projet caché en lui-même, en Dieu. Alors, on a bien identifié quelques textes qui nous parlent de ça. On peut parler de Genèse 17, verset 4, où en fait, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il lui dit « Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. » Nous, on se dit « Bah oui, les peuples, la multitude de peuples, c'est nous. C'est nous. » Dans Ésaïe 56, aussi, au verset 7, il est écrit « Je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on me prie. Et j'agréerai leurs holocaustes et autres sacrifices offerts sur mon autel. Car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. » Eh bien oui, évidemment que Dieu voulait au final intégrer tous les peuples. Maintenant on le sait. Sauf qu'au temps des Juifs, il n'y avait pas moyen de le savoir, ou très peu de moyens de le savoir, si ce n'est par une révélation de Dieu à Paul. Ces révélations, ces deux textes que l'on prend dans la Torah, sont quand même assez ténues pour comprendre tout ce qui allait se passer derrière. J'aimerais juste, je vais me permettre de faire juste une petite parenthèse malgré l'heure qui avance. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, les Juifs sont montrés du doigt dans beaucoup, beaucoup d'aspects de religiosité que Jésus a fortement rejeté, fortement critiqué. C'est vrai qu'il y avait des gens dans le peuple juif qui étaient à côté de la plaque complètement par rapport au plan de Dieu, à ce que Dieu attendait d'eux. Aussi, dans plein de textes, les Juifs sont sévèrement critiqués. Et on pourrait avoir la tentation de penser que c'était un peuple mauvais. Vraiment, c'était l'exemple à ne pas suivre. Enfin, dans l'histoire de l'Église, ils ont été critiqués de tout. Ils ont été rejetés. Ils ont été bannis. C'est facile maintenant pour dire, nous, à notre place, bah oui, évidemment que le salut était pour tout le monde. Comment aurions-nous réagi si toutefois nous avions vécu à cette époque, donc de Jésus, dans une culture, donc en tant que juif, dans une culture assise depuis des millénaires, comme quoi nous sommes le peuple élu, le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu conduit, comment aurions-nous réagi si un homme, même s'il faisait plein de miracles, venait et cassait un peu la baraque? Aurions-nous eu la souplesse d'esprit de totalement tourner le dos à notre passé pour accueillir ce qui y arrivait? Honnêtement, je mettrais rien sur la table pour dire « Oui, moi, c'est sûr, je l'aurais fait. » Vraiment. Voilà, je vais fermer ma parenthèse là-dessus, mais soyons quand même attentifs aux positions que nous prenons par rapport à ces Juifs qui ont vécu au temps de Jésus. Aurions-nous réagi différemment d'eux? Pas certain. Bien, mais revenons à notre thème initial. Je ferme la parenthèse. Alors, quel effet cela nous fait-il que nous soyons nous-mêmes, en tant qu'Église, même locale, que nous soyons un signe de toute la sagesse de Dieu? Que notre présence ici, ce samedi matin, donc en tant que païens, qui plus est de peuples, c'est vrai, d'origine très très différente de la terre, que nous soyons ici pour pouvoir louer et prier Dieu. Qu'est-ce que ça nous fait que nous soyons un signe de la sagesse infinie de Dieu? Mais pardonnez-moi, en fait, ma question est un petit peu tronquée parce que le texte ne nous parle pas des personnes, mais nous parle de l'Église. Il est écrit que c'est l'Église qui est le signe de cette sagesse infiniment variée de Dieu. Paul écrit bien que c'est par le moyen de l'Église. Aussi, je dois vous reformuler ma question. Qu'est-ce que cela nous fait que notre Église, à laquelle nous appartenons, soit un signe de toute la sagesse de Dieu pour les autorités et les êtres célestes? Parce que oui, notre Église est un petit morceau de cette Église universelle. Notre présence ici ce matin, le fait que l'on puisse chanter, louer, prier, comme on l'a fait au début de ce culte, est un signe pour l'univers. Alors vous allez me dire, oui, bon, enfin, t'es gentil, mais t'en fais quand même un petit peu trop, t'en rajoutes un peu. Mais non. Non ? Nous savons finalement assez peu de choses sur ces réalités spirituelles des êtres célestes. Dieu l'a voulu ainsi. Et avec ce texte, Paul nous ouvre une petite fenêtre sur ces réalités. L'Église, ce que nous sommes, ce que nous vivons, est un signe infiniment varié de la sagesse de Dieu pour eux. Alors, l'Église a-t-elle autant d'importance que cela ? Apparemment, oui. C'est ce que Paul nous écrit. Et l'Église a-t-elle autant d'importance que cela pour nous-mêmes ? Saisissons-nous la place que l'Église a dans le plan de Dieu, ce plan qu'il a gardé en dedans de lui de toute éternité. Le projet, l'Église n'est pas pour Dieu un projet par défaut. Il ne se dit pas, bon allez, Jésus va venir, ça va faire des chrétiens, il va falloir qu'ils se réunissent, allez, ils vont faire une Église. Non, non, l'Église n'est pas un projet par défaut de Dieu. Alors notre Église est imparfaite pour autant. Mais c'est malgré tout le moyen que Dieu a prévu de toute éternité pour que nous puissions nous rapprocher de lui. C'est un outil qu'il a pour répandre l'évangile, et merci pour ta remarque Emmanuel, pour qu'il puisse étendre son royaume dans l'humanité, qu'il puisse faire croître ses enfants, chacun d'entre nous. Et nous l'avons fait, l'Église a encore de multiples intérêts, de multiples rôles, de multiples valeurs, de multiples images pour nous. C'est Dieu qui a établi l'Église. Encore une fois, ce n'est pas un projet par défaut. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 25, a commandé à ses lecteurs « Ne délaissons pas nos réunions. » D'autres traductions traduisent par « assemblée ».« Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. » Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. À l'époque déjà, donc au tout début de l'Église, je veux dire, la lettre aux Hébreux a été écrite durant le temps de l'Église primitive. Au tout début de l'Église, déjà, certains chrétiens avaient tendance à abandonner les assemblées, les églises, leurs groupes. Alors oui, il y a une bonne raison, il y a des raisons humaines à le faire. Notre Église, nous sommes imparfaits. Et notre imperfection se voit dans ce que nous vivons, nécessairement. Alors, on pourrait trouver 36 000 raisons, 36 000 points de critique sur ce que nous vivons. Bon, ici, on va dire 35 000, parce qu'on est quand même pas mal. Mais on pourrait très bien parler de la façon de vivre les cultes. Ben, on pourrait parler aussi de la fraternité, qui est peut-être pas terrible, pour certains. On pourrait parler également des prédications. Vous avez quelque chose à dire sur les prédications ? On pourrait parler de l'expression des dons spirituels qui est peu développée. On pourrait parler également du pasteur qui parfois n'est pas toujours disponible. On pourrait aussi parler de la place personnelle que nous donne l'Église. On se considère peut-être mieux ou méritant ou je ne sais quoi d'autre que la place que nous avons. On pourrait parler également de la théologie qui n'est pas toujours en accord avec ce que je pense. Avec mes convictions, on pourrait parler encore du bâtiment. Alors là, on pourrait en parler. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, en 15 secondes, j'ai soulevé 8 points où on pourrait critiquer. Et j'ai presque envie de dire, à juste titre. Et puis ces 8 points, on pourrait les multiplier à foison, à l'infini. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai, ce que nous vivons en Église n'est pas parfait, il y a ses limites. Elle a nos limites également. Et pourtant, Dieu nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Dans son plan, dans le plan de Dieu pour nous, l'engagement envers notre Église, envers notre communauté, notre assemblée, est essentiel. De toute manière, la vie avec Dieu, c'est une vie d'engagement. Ce que Dieu propose à ses enfants, c'est une alliance. Et une alliance, eh bien, un signe d'engagement, c'est bien un engagement mutuel. Alors, c'est un engagement de Dieu en premier lieu, et c'est un engagement de notre part en réponse à ce pas de Dieu. Et il n'y a pas d'engagement avec Dieu sans engagement dans l'Église. C'est Luc, dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 47, c'est donc au tout début de l'Église primitive. Luc écrira dans le livre des Actes à propos de l'Église. Ils louaient Dieu et le peuple tout en Dieu leur... Pardon, je recommence. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Tu es sauvé ? Clac, tu vas dans une église. C'est simpliste, mais c'est assez fidèle au plan de Dieu, ce qu'il attend de nous. Non, un chrétien, lorsqu'il est sauvé, il ne reste pas dans son coin, isolé, à se demander s'il va fréquenter une église ou pas. Tu es sauvé ? Clac, tu vas dans une église et tu t'y engages. Alors évidemment, c'est vrai, encore faut-il trouver l'église la plus adaptée à notre conviction, à ce que nous sommes. Mais pas non plus l'église parfaite, parce qu'il y a des personnes qui cherchent toute leur vie. Et ils ne trouveront jamais, parce que ça n'existe pas. Et une fois qu'on a trouvé cette église, dans laquelle on se sent bien, avec ses limitations, on s'y engage. J'insiste un tout petit peu sur cette notion d'engagement, car on est là à l'opposé de ce que nous propose la société. Enfin, j'imagine que vous l'avez... vu vous-même, ce que nous propose notre société, c'est pas de nous engager. Ce que nous propose notre société, c'est de consommer. Alors les gens consomment. Le monde consomme. Jusque dans les relations amoureuses, on ne s'engage pas, mais on consomme. Et puis, lorsque l'on voit les défauts de l'autre personne, lorsqu'elle commence à nous gonfler, hop, on va voir ailleurs. On change. Et c'est la même chose, enfin, le risque est que ce soit la même chose avec l'Église. On peut consommer également. On peut aller de l'une à l'autre, comme ça, et puis, j'ai eu un bon message, je vais y retourner. Oh, la fois d'après, il y a quand même cet aspect qui me gêne. Boum, je vais voir une autre. On peut consommer. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté un petit peu avec des collègues de bureau ou de travail, ce qui se passe dans la société par rapport à l'engagement marital, c'est hallucinant. Enfin, pour le coup, je vais passer pour un vieux machin, mais je pense pas que c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Internet n'a rien arrangé, évidemment. On peut rentrer en contact avec tout un tas de personnes, on peut rencontrer les gens à tour de bras, et on consomme. Alors, j'aime pas prendre un cas particulier, mais je connais une personne sur mon lieu de travail, elle est avec une personne, j'allais dire elle est engagée avec une personne, mais non, elle est avec une personne, elle a deux enfants avec lui, mais elle n'est pas engagée. Moi, je suis sur une autre planète. J'hallucine. Parce que pour beaucoup de personnes maintenant dans notre société, ce qui compte, c'est le plaisir. Enfin, son propre plaisir, vous l'aurez compris. Donc on consomme tant qu'on y trouve ce que l'on cherche. Et puis quand on ne trouve pas, on passe à autre chose. Alors que l'engagement, c'est contraignant. Vous allez pouvoir faire le parallèle avec le couple, mais l'engagement également dans l'Église, c'est contraignant. Parfois, ça nécessite de serrer un peu les fesses quand ce qui se passe nous dérange un petit peu. Parfois, on y trouve ce que l'on cherche, mais parfois, on ne le trouve pas. Il peut nous arriver de venir un dimanche matin et pas de repartir complètement vide, mais finalement on avait des attentes, on avait envie de vivre quelque chose de chaleureux, de communion, et puis non, on ne le trouve pas. Ça arrive dans l'Église. Il faut arrêter de délirer, on n'est pas dans le monde de oui. Enfin, l'engagement, c'est contraignant. C'est ça le sens de l'engagement. C'est rester lorsque tout ne nous convient pas parfaitement. Alors, je vais équilibrer un tout petit peu mon propos. Parce que parfois, il faut quand même noter qu'il est souhaitable, profitable, qu'un chrétien prenne du recul par rapport à sa situation dans une communauté. Pour diverses raisons. On peut très bien prendre un peu de recul par rapport à la communauté ou par rapport à un service. Et pour le coup, là, je vais témoigner un petit peu de mon cas personnel. Il y a quelques années de ça, en fait, j'étais très engagé dans ma communauté. Peut-être un peu trop. Ou alors, peut-être que mon engagement n'était pas tout à fait bien calé, ou pour de mauvaises raisons. Enfin, il y avait quelque chose de... Voilà. Ça a fini par me peser, vraiment. Et un jour, j'ai décidé de prendre un peu de recul, de distance. Et le jour où j'ai fait ça, c'était une bénédiction. Alors, je dis le contraire de ce que je viens de dire, mais pour le coup, vraiment, ce temps de recul et de distance a été d'une immense bénédiction pour moi. Ça m'a permis de me reposer, d'observer, enfin de penser un petit peu, de méditer sur tout ce que j'avais fait là durant les années précédemment, pourquoi je les avais fait, etc., etc. Oui, il peut être parfois utile, soit de prendre de la distance par rapport à son service, soit, pourquoi pas, changer de communauté. Ça peut avoir du sens, ça peut avoir son utilité. Mais parfois, et pour un temps seulement. Car notre place, en tant que croyant, est bien de servir Dieu dans son Église. Alors nous l'avons vu, et je vais conclure sur ces quelques mots, l'Église n'est donc pas un projet par défaut de Dieu, c'est très important. Elle est le lieu choisi, institué par lui, pour notre croissance à tous, et elle est l'outil de Dieu pour la croissance de son royaume dans l'humanité. Rien que ça. Notre présence à nous, maintenant, nous païens, dans l'Église, n'a rien de naturel, malgré ce que l'on pourrait penser. Elle est le fruit d'un plan de Dieu, d'un plan qu'il a prévu de toute éternité. À tel point que l'Église, mélange juif et païen, est un signe des aspects infiniment variés de Dieu pour les autorités et les puissances célestes. Alors, ne considérons pas l'Église comme une option, comme un lieu où nous nous rendons rituellement, dimanche après dimanche, parce que c'est notre rythme habituel, hebdomadaire, c'est sur notre planning. Non, considérons l'Église comme un lieu d'engagement. Alors, engageons-nous-y. Apprenons à dépasser toutes ces petites frustrations qui sont inévitables. Voyons bien au-delà. Voyons les projets dans lesquels nous sommes engagés. Alors, ensemble, servons notre Dieu et le monde qui nous entoure. Amen.
Et nous exprimons notre reconnaissance.